Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de partager le popcorn au cheddar parce que c'est vraiment pas bon puis tout le monde doit l'essayer pour savoir à quel
quoi,
point c'est pas bon.
Quoi, pas le popcorn au cheddar?
J'aime pas le popcorn
les
au cheddar.
Les smart food?
Mais non, c'est super bon le popcorn au cheddar.
Ah, c'est malade.
Je suis un homme de popcorn au caramel et de popcorn nature, sinon c'est rien.
Je suis triste.
Je ne sois pas triste, ça fait plus de popcorn au cheddar pour vous deux, moi j'y touche pas.
Effectivement, vu le même.
Donc, c'était ça. est-ce qu'on a une belle semaine de planifier cette semaine? Jim, t'as-tu trouvé quelque chose de nice cette semaine?
Écoute, ben de nice. Ça dépend pour qui. Hein? Je vais vous dire que je vais encore vous parler un petit peu de polémique aujourd'hui. Vous savez...
Paul, il est vraiment souvent dans les médias.
Oui.
Paul et Mick.
Oui, bien sûr. Bien
avec
sûr,
avec hein? son ami Mick, en fait.
Avec oui, Alex et Alain Intérieur, les frères Intérieur, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que le magazine Time a créé un certain remous cette semaine avec la première page montrant Trump près d'une fillette migrante en pleurs avec les mots écrits « Welcome to America », « Bienvenue en Amérique ». C'est pas trop clair si la fillette a été séparée de sa mère ou non, comme l'ont été 23 000 enfants depuis avril, mais parce qu'il y a des informations contradictoires qui circulent. Mais pourquoi je vous parle de ça surtout?
C'est pas mal confirmé que la fillette n'a pas été séparée de sa
bon,
mère.
Bon, ben voilà.
Mais c'est quand même une photo assez impressionnante. Bref, j'ai beaucoup d'opinions là-dessus.
Ben visiblement. Mais c'est, je vous parle de ça pourquoi? Ben, est-ce que vous vous souvenez la fois que je vous ai dit Jim Carrey envoie des photos de ses œuvres politiques sur Twitter?
Oui.
Ben c'est pas fini parce que notamment les caricatures du président américain se poursuivent. Jim Carrey cette semaine a décidé de refaire la première page du magazine Time à sa façon avec une peinture montrant Trump en train de donner un coup de pied au visage d'une jeune fille migrante qu'on reconnaît plus ou moins par son habillement comme étant la petite fille du magazine. Il a publié l'image sur Twitter avec le texte suivant. J'ai réparé la couverture controversée de Time Magazine. C'est beaucoup plus approprié. Alors voilà, voilà ce qui était de ma nouvelle pour cette
c'est pour
semaine.
Ça, c'est pour ça qu'on aime Jim Carrey, en fait.
Il n'a pas peur de oui. ce... Voilà.
Il n'a pas peur. Yep. C'est un homme qui n'a pas peur. Ouais. Mais moi, j'ai une nouvelle vraiment moins polémique et politique que ça. Moi, j'avais parlé du fait que je suis vraiment excité parce que dans 3 semaines, le 12 juillet, va voir le lancement à Montréal du festival de films Fantasia.
Absolument.
Je suis pas mal sûr que je vais aller participer à ces affaires-là parce que j'adore le festival Fantasia. Il y a des affaires de fun à chaque année. J'ai vu certains de mes films favoris. Je les nommerai pas tous, il y en a qui sont particulièrement gore, mais je recommande toujours le film belge en noir et blanc, Kill Me Please, qui était absolument du génie.
Tout à fait.
L'autre film était d'une certaine nationalité, puis c'était compliqué. Là.
Mais là, ça remonte à quelques années quand même.
Oui, mais c'était des jeux quand même. 2014.
Ah oui, OK. Je pense que c'est
non,
plus vieux que ça.
Plus vieux que ça, 2012. Ouais. Bref. Mais non, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine?
Moi, j'ai fouillé. En fait, j'ai été inspirée par notre dernier épisode vers la fin où on parlait de popcorn et j'ai décidé de vous sortir 3 recettes. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, la première est une recette pour les dents sucrées. Donc, c'est un popcorn aux biscuits et crème. Et comment on fait ça? En fait, on fait éclater notre maïs soufflé, hein? On prend des Oreos et du chocolat fondu, on écrase les Oreos, on les mélange avec le popcorn qui est bien entendu éclaté, et ensuite on verse dessus le chocolat fondu, on brasse le tout, on laisse reposer un peu, donc on a du popcorn au
chocolat.
Biscuit et crème.
Ah.
Ça doit être particulièrement gommant à manger, là, tu me décris ça. Bon.
Ouais,
ça
prend des serviettes de table,
ça prend des gants en latex, là, c'est pas...
Mais vous avez pas des dents sucrées vraiment, vous autres, je crois,
Lina, je ne vis que pour le sucre. Tu as parlé chocolat, puis moi, je suis viré fou.
Ben,
c'est Jim
super.
Qui ne connaît pas le plaisir.
Ben bon, mais voilà. Jim, j'en ai une pour toi. C'est pour les dents sucrées et épicées, attention.
Épicées. Bon,
oui.
Poivre de cayenne, check bien ça.
Exactement. Donc, c'est popcorn cannelle, assaisonnement au chili, avec un peu de sirop d'érable et du sel. Donc, ça nous donne un popcorn cannelle et chili.
Pas inintéressant.
Voilà.
Oui, mais en fait, tu devrais nous en amener pour la semaine prochaine pour qu'on teste la camelote.
Voilà, et j'ai ma dernière recette qui est pour les fans de sucré salé. Donc, c'est un popcorn, miel et parmesan. Et on saupoudre un peu de poudre de chili, de cayenne et de sel, et beaucoup de parmesan ainsi que du miel. Donc voilà, une autre recette.
Ça a l'air de toute beauté.
Voilà. Je suis pas convaincu, moi, du parmesan et miel.
Faudrait l'essayer, en fait. J'ai envie de les essayer tous. Je crois que ma préférée serait, bien sûr, celle au Oreo et chocolat fondu.
Bien, on devrait se faire un événement, surtout que c'était cette semaine également le 30e anniversaire de la sortie de Who Framed Roger Rabbit, qui a accusé Roger Rabbit, qui est un film qui a fait histoire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui a accusé Roger Rabbit, c'était un film d'animation en vrai. C'est un des seuls films où on a vu des personnages de Disney et des personnages de Warner s'affronter. On a quelques scènes assez mémorables. Je recommande ce film à tous et toutes.
On devrait s'acheter un lapin à Cinébrunch pour la cause.
Je vais... Ou lapin en peluche ou lapin en chair et en os?
Ça peut être en chocolat.
Ah, ça serait bon, ça, un lapin. Bref, on va passer à autre chose. Bon, cette semaine, Mélina, t'es allé voir un film de médecine. Un film de sa chirurgie, là.
Pourquoi tu dis ça, Louis?
Ben, beau soleil intérieur. Comme si t'as un soleil en dedans de toi, ça te prend... Faut sortir ça de là, vite, là.
En tout cas, clairement, toi, brûle, t'en as pas en dedans du soleil.
As-tu réalisé, Jim, qu'en tout temps, tes os sont mouillés?
C'est pas vraiment le genre de chose à laquelle je pense.
Parfait. C'était juste ça qu'il fallait que je mentionne. Fait que beau soleil intérieur...
Oui, un beau soleil intérieur, c'est ça. Donc, c'est un film réalisé par Claire Denis avec Juliette Binoche dans le rôle principal. Donc, je vais vous lire le synopsis du film. Donc, Isabelle est une artiste quinquagénaire et divorcée. Mère d'une petite fille dont elle partage la garde avec le père, elle décide de partir en quête de l'amour et du bonheur. Afin d'y arriver, elle accumule les aventures, les rencontres, les relations. Malheureusement, aucune n'arrive à la combler. Elle fait la connaissance d'un voyant qui lui conseille d'arrêter de se compliquer la vie et de simplement vivre, de profiter de chaque aventure, ne pas se torturer et ainsi peut-être trouver son soleil intérieur.
Et Calvin.
C'est de là que vient le soleil intérieur. Donc, c'est avec Xavier Beauvois qui joue un banquier cynique, Philippe Catherine en grand bourgeois excentrique.
Philippe Catherine.
Nicolas Duvauchel en acteur de théâtre alcoolique.
Ça va, Jim?
Oui, non, mais vous savez, c'est qui Philippe Catherine?
Non.
C'est le monsieur là, qui fait des chansons. C'est un peu le Normand Lamour de la France.
Oh!
Voilà. Poursuis, excuse-moi.
D'accord. Donc, j'étais rendue à Bruno Podalydès et Josiane Balasco, qui sont tous deux des galeristes. Paul Blain en homme du peuple tendre et fataliste. Alex Deca en conservateur de musée plein de mystères. Gérard Depardieu en voyant. Et bien sûr, Juliette Binoche qui joue le rôle d'une artiste qui cumule les échecs amoureux. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Je suis rentrée avec lui et...
Mais j'ai pensé que j'étais très heureuse, que j'avais beaucoup de chance, que ma vie était extraordinaire. Et puis alors, le lendemain, ben, j'ai pensé le contraire, quoi.
Je t'admire. Tu m'enchantes, mais j'ai une femme extraordinaire.
Je me disais que c'était un salaud. Et je jouais ça.
Ah, bonjour! Comment allez-vous? Vous allez bien?
Non.
Je t'arrête un instant avant de commencer. Est-ce qu'il y a juste moi qui est impressionné du retour au grand écran de Gérard Depardieu, lui qui avait quitté en claquant la porte l'Hexagone en disant que ça coûtait trop cher de taxes, que ça de la scrap, qu'il allait refaire sa vie en Russie comme ministre de la Culture?
Oui, mais je pense qu'il est... oui, il a quitté théoriquement son lieu de résidence, mais il a pas longtemps arrêté le cinéma parce que... continuer par-ci, par-là,
je
à avoir des rôles
dans
quelques affaires.
Je pense qu'il y a un bon deux ans qu'il n'y a pas rien eu de principal. Parce que là il y a un rôle secondaire, de ce que je comprends, dans, comme voyant, mais il y a un rôle principal là, dans, je ne sais plus c'est quoi le titre du film, qui s'en vient bientôt. Là. Ah. Fait que, ouais, c'est...
Ouais. Mais oui. C'est quand même un gros casting, ce film-là, là, on s'entend. Là.
C'est quand même
ben
un
oui,
gros casting,
Binoche,
oui.
Puis Depardieu, puis tout, là. Oui, oui.
Oui.
Oui, oui.
Donc, si je peux poursuivre.
Oh, oui.
Donc, donc c'est ça. C'est un film qui est censé être une comédie romantique. Puis je dis bien le mot « censé » parce que j'ai vraiment pas ri durant ce film-là.
Oh. Drame romantique, alors.
Pas mal, oui. En fait, je dirais, Jim, le problème de ce film-là, c'est simplement le scénario. Donc, les acteurs sont tous excellents. Ils livrent de remarquables performances. Et comme on vient de le dire, c'est pas non plus un cast que personne ne connaît. Donc, ils sont excellents, ils sont vraiment à la hauteur, mais le problème, c'est vraiment le scénario. Je l'ai trouvé extrêmement plate. Et en gros, c'est une gang de bourgeois parisiens qui semblent ne jamais vraiment travailler et qui sont constamment dans des bars ou dans des restaurants en train de se plaindre de leurs problèmes comme s'ils vivaient la pire tragédie du monde, alors qu'on traite ici de situations relationnelles banales. Et je dis banal dans le sens que les difficultés relationnelles sont créées par leur propre comportement, c'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer clairement ce qu'ils ressentent, les personnages utilisent des longs dialogues remplis de métaphores obscures, ce qui rend la communication entre eux extrêmement difficile et qui crée le scénario.
Ça me semble, peut-être que Jim va vouloir traverser les murs et me saquer une claque, mais ça me semble typique d'une comédie romantique française, là.
Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y en a eu des très bonnes comédies romantiques françaises, là, on est juste dans un univers qui n'est pas drôle. Et ça rend la chose extrêmement difficile pour moi de coter ce film-là parce que c'est extrêmement difficile d'apprécier un film quand le scénario et les dialogues ne nous touchent pas du tout. Donc, pour moi, le film, il a au moins perdu à cause de ça 50% de sa valeur. Et c'est pourquoi, même si les performances des acteurs étaient tout à fait remarquables et que la photographie, la lumière était bonne, que je donne seulement un 4,5 sur 10 à ce film-là.
You, 4,5?
Oui, j'ai vraiment pas... J'aurais préféré ne pas voir ce film-là. Un beau soleil intérieur. Je veux dire, certainement, il y a un public pour ce film-là. Clairement, je n'en faisais pas partie. Et je trouvais juste que le scénario... On a vu des films avec des scénarios sur des situations banales. Je pense au film Jusqu'à la garde qui traite de garde d'enfants et qui pourtant est l'un des films qui m'a le plus marqué de ma vie. Et là, on prend une autre situation banale, c'est-à-dire des relations compliquées, si tu veux, mais elles sont pas vraiment compliquées, elles sont juste compliquées par la personnalité des personnages et c'est pas drôle du tout, on n'est pas du tout dans la comédie. C'est ça. J'ai pas vraiment apprécié, même s'il faut dire les acteurs étaient excellents, vraiment. Mais le scénario cassait pas des murs ou des briques ou
même des jambes.
Des jambes, c'est ça.
Calvin, ok, c'est rough. 4,5, c'est oui. La première fois que.
Je pense que c'est une de tes plus basses notes.
C'est officiellement la plus basse note de Mélina, qui. Toujours pas réussi à atteindre la plus basse note jamais donnée à cette émission de radio, qui est de moins 3.
C'est vrai?
C'est évidemment toi qui as donné une note pareille.
À trip à 3, je m'en rappelle, je vais m'en rappeler longtemps du moins 3 pour toi.
Mais en fait, c'est drôle de me parler de ça, puis un peu à trip à 3 que ça me faisait penser jusqu'à un certain point.
Oui, mais...
Calvin,
oui.
Comme mon image que j'ai eue
romantique, pas si drôle. Puis oui.
Sauf que la différence de trip à 3, c'est que les acteurs étaient vraiment excellents dans Un beau soleil intérieur. Et je veux pas dire que les acteurs de trip à 3 n'étaient pas excellents.
Mais ils étaient pas bons.
Mais
moi, je vais le dire.
On était plus dans le milieu de la chose. Ouais. Dans ce film-là, les acteurs étaient vraiment excellents. Les performances étaient vraiment hallucinantes. Là. Et c'est ça qui rend ça extrêmement difficile. Mais quand t'embarques pas dans un scénario, quand tu rentres pas dans l'histoire, c'est très, très difficile d'apprécier le film. Et ouais. Même si on est capable de reconnaître des performances vraiment excellentes, si le film, le scénario ne convient pas, ne fonctionne pas pour la personne, donc pour moi...
Ça ne le fait pas.
Ça ne le fait pas.
Bon, ben, j'essaie de ne pas toutes les avoir.
Merci beaucoup, Mélina. Juste un aparté rapide pour dire que je me trompe encore en des acteurs français. C'est pas Gérard Depardieu qui fait un retour à l'écran que j'ai vraiment hâte de voir. C'est Jean Dujardin dans Le retour du héros qui a l'air vachement très drôle. Mais c'est pas Gérard Depardieu.
Mais non, puis tantôt on parlait de Philippe Catherine. Je pense que Philippe Catherine a participé à quelques films, mais je pensais pas à un niveau, à ce genre de niveau-là. Est-ce qu'il était drôle, Philippe Catherine, dans son rôle?
Il y a aucun des personnages qui était drôle.
Ah, moi, je pense que c'est ça le setup. Je pense que ça justifie. Moi, je trouve que 4,5, c'est très généreux pour un film que tu penses que t'aurais dû rester chez vous ce matin-là. Mais c'était ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas un chat qui l'a fait rire.
C'est ça. Mais les quatre points sont vraiment pour le reste du film, c'est-à-dire les acteurs, les performances, la couleur, la direction photo, qui étaient toutes très correctes, très bonnes. Donc, voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Mélina. Fait que moi, cette semaine, j'étais voir un film. J'étais voir un film qui parlait de dinosaures. Ça va, Jim?
Oh oui, non, mais j'ai hâte d'entendre ta critique. Parce que, ben non, ça va l'air épouvantablement d'un film vraiment pas écoutable.
Mais ben là, avant de commencer puis de m'aligner trop loin, je dois admettre des choses. Je dois dire et me confesser, gens et gens de écouteurs de Cinébranche, j'ai pas vu le monde jurassique, le premier du reboot tout croche. Ouais. Ouais.
Ah, mais t'as vu le premier, l'original?
Oui, j'ai vu le parc jurassique.
Ok, t'as pas vu le...
Vu, bon, voici la chronologie des films jurassiques que j'ai vus. J'ai vu le parc jurassique, je l'ai vu à la fin des années 90, et j'ai vu le monde jurassique, le royaume déchu, cette semaine.
Ok, bon, c'est ça.
C'est tout. J'ai pas vu...
pas vu le deuxième, autrement dit.
Le deuxième, j'ai pas vu le troisième. Ouais, c'est vrai. J'ai pas vu le monde jurassique, le premier, qui est un reboot de 2015 avec Chris Pratt. C'était la première fois que je voyais Chris Pratt musclé avec la petite veste. C'était la première fois que je voyais Bryce Dallas Johnson être le love interest de Chris Pratt. Donc, moi, j'arrive dans ce film-là avec un regard neuf. Un regard plein d'espoir. Un regard plein de... L'ancien volcan est sur le point d'entrer en éruption sur l'île de Nublar. Les plus grands spécialistes du monde se réunissent afin de déterminer s'il faut sauver les dinosaures qui y vivent ou les laisser mourir. Claire Deering a la ferme intention de les protéger et avec une équipe qui a à cœur le bien des animaux, elle se rend sur l'île pour sauver les différentes espèces de l'extinction. Oren Grady, qui a développé un lien spécial avec le Vélociraptor Mlio, fait partie du voyage. Aidé par de riches entrepreneurs, ils se relanceront à la poursuite des bêtes afin de leur offrir un nouveau logis plus sécuritaire. Pourquoi est-ce que je prends un ton aussi désabusé et nasillard quand je lis ce synopsis-là?
Je pense que c'est parce que t'as pas aimé ça.
Je pense que tout le film est dans le synopsis.
Non et non.
Ah.
C'est pire que ça.
T'as mal à une dent, comme Mélina?
Non, mes dents vont bien. Non, c'est pire que ça. Vous le savez, je suis un homme un peu fasciné par les détails, des fois, dans la vie. Oui. Puis là, c'est ça. Le monde jurassique, Royaume déchu, est un film qui avait des scènes extraordinaires, qui avait des moments super intéressants. Quand les dinosaures commencent à sortir à l'écran, on voit toute la vision de Steven Spielberg qu'il avait dans les années 90, mais qui n'a pas pu réaliser, faute de moyens, réaliser au beau milieu d'un écran. C'est gigantesque, c'est beau. Il y a quelques personnages qui servent à rien, il y a quelques personnages qui laissent présager des futurs bizarres à la série. Mais le gros problème, c'est que toute l'histoire tourne autour du fait de le monde jurassique qu'on a vu dans le premier, de ce que j'ai compris, là, j'ai lu sur Wikipédia après ça, se passait sur Isla Nublar. Isla Nublar est menacée par un volcan, tous les dinosaures vont y mourir. Et là, comme dans tous les mondes jurassiques, ever, il y a une bande de riches capitalistes qui décident d'en profiter puis de faire un coup d'argent croche avec des dinosaures.
En envolant un, mettons.
11.
En envolant 11, mettons.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, plutôt que d'envoler un comme dans le premier, il en vole 11 cette fois-ci.
Il y a une évolution quand même.
Il y a une évolution.
On ne pourra pas leur reprocher de se répéter, hein?
Non. on va mettre la bande-annonce. Parce que la bande-annonce, malgré ce que Jim a pu dire, il y a vraiment une couple de moments intéressants. Je pense que j'ai sélectionné un des trucs qui était le fun de ce film-là.
Bon.
Courez! Courez!
La vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La vie trouve toujours un chemin.
Donc, les trucs intéressants, c'est surtout des hurlements de dinosaures.
C'était vraiment des beaux dinosaures.
Ah, non, ah, ça, tout à fait. Tout à
la,
fait.
La voix qu'on entend à la fin, c'était la traduction de Jeff Goldblum qui revenait dans son rôle de Dr. Ian Malcolm, qui était, oh mon Dieu, tellement sharp. Si vous avez la chance sur Internet, il existe des photos des avant-après 1990-2018 où on voit son personnage dans la Jurassic Park avec sa chemise hawaïenne ouverte sur un chest avec du shaggy qui ressort. Puis là, la version vraiment lichée devant un comité du Congrès, c'est vraiment toute beauté.
C'est fait épiler là, depuis, c'est ça?
On sait pas, on voit pas. La chemise est très beaucoup fermée.
Parce que la mode change, hein? Pas.
Ben, c'est ça. Ben,
oui, hein? Définitivement. Bon. Mais bref, Jeff Goldblum, je l'aime d'amour. Toby Jones est aussi dans ce film-là, parce que Toby Jones a toujours besoin d'un petit homme qui est vraiment méchant. Fait que lui. Qu'est-ce qu'on a dans ce film-là? On a... Donc, c'est séparé comme en deux espèces de sous-histoires. La première histoire, c'est « Les dinosaures vont mourir ». Et vraiment, tout le film tourne autour de « Les dinosaures vont mourir ». Est-ce qu'il faut les laisser en vie? Est-ce qu'il faut les laisser sortir ou pas? L'autre morceau de l'histoire, c'est « Le capitalisme, c'est mal ».
Ça, c'est un thème jamais utilisé encore au cinéma.
Non, surtout pas dans vraiment la série la Jurassic Park. Le premier Jurassic Park était tout autour du fait que le capitalisme, c'est mal. Là, comme, c'est un beau rêve scrappé par des ambitions démesurées des gens. Donc, c'est ça. Rafe Spall, qui joue ici un espèce de... Je vais utiliser la citation de quelqu'un d'autre, là, mais comme de méchant homme britannique qui a des dollars à la place des yeux. T'sais, c'est comme ça qui a été décrit par plusieurs critiques.
J'aime le méchant beaucoup... étant Tommy Jones.
Non, Toby Jones est juste là pour aider.
Ah, ok, d'accord.
Voici comment ça se passe. Les dinosaures vont mourir. Ils mènent une expédition pour aller sauver les dinosaures. Une fois sur l'île, ils réalisent que l'opération pour sauver les dinosaures est en fait l'opération pour sauver les dinosaures pour les vendre.
Ah, voilà.
Ah, ouais, c'est ça. Toby Jones est là pour runner une espèce d'enchère haut niveau. Puis ça, j'étais vraiment plié en deux, parce que c'était comme « Oh mon Dieu, c'est les plus hauts niveaux qu'on a vus dans une enchère jamais. » 5 millions de dollars. J'étais comme là, 5 millions, là...
C'est pas tant.
Ça me fait pas...
Puis franchement, c'est pas beaucoup pour une espèce qui n'existe pas ailleurs.
Non, c'est ça, puis qui peut pas réexister. Il y a vraiment 3-4 dinosaures qui sont partis aux alentours des 20-25 millions, puis j'étais comme... C'est pas un quart de milliard, là. C'est un quart de 100 millions. Fait que j'étais bien déçu des enchères.
T'aurais donné plus, toi.
Ben, j'ai pas ces sommes-là. sinon, c'est ça. Mais oui, je veux dire, je me serais attendu à plus. En fait, je vais être vraiment honnête. Il y a vraiment des moments que j'aimais dans le film. J'ai vraiment... Les images sont belles. Je vais donner ça, là. La vision est vraiment excellente. Au niveau photographie, c'est malade. Le trailer donne certains des meilleurs moments visuels du film, à mon humble avis. Là, la scène dans l'espèce de manoir avec le gros Indoraptor qui essaie de venir...
En dessous de la vague aussi, là. C'était quand même intéressant. Là.
Ouais, puis ça, d'ailleurs, je reviens là-dessus. Ça, c'est pas vraiment dans le film.
Quoi?
C'est juste à la fin complètement, là, comme dans les 5 dernières minutes, pour t'expliquer que tout va mal.
Ah,
c'est... Parce que... Puis là... C'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'aurais aimé ce film-là si ce n'était de la fin. Puis là, je ne divulgacherai rien, je vous expliquerai pas qu'est-ce qui se passe à la fin, mais sachez qu'un choix à la fin est excessivement moralement lourd comme choix et, à mon humble avis, ils font le mauvais, mettant en danger des centaines de milliers de vies humaines pour des raisons empathiques envers la nature de marde.
Éditorial de Louis ici.
Éditorial de Louis. Mais en même temps, c'est ça. Surtout, justement, là, ce que tu nommes dans la bande-annonce, il y a une scène où c'est une espèce de gigantesque baleine requin qui vient manger des gens en train de faire du surf sur la plage. Puis, nonobstant mon amour ou pas des surfeurs, ils méritent pas de mourir, ces gens-là. Comme...
Ben, on s'entend que c'est un film, lui.
On est un peu dans l'espèce de parallèle avec la dame qui arrête sur l'autoroute pour laisser passer des canards. Là.
Précisément. Okay. En plus de cracher sur les modifications génétiques, qui est une chose qui va potentiellement sauver la vie humaine, éventuellement. Ou tout nous tuer, mais il faut au moins qu'on ait le choix au lieu d'être vilifié dans les médias d'avance. Ouais. Bref, des choix politiques de merde, des images cute, rien de vraiment, ils n'ont pas réinventé la formule, ils n'ont pas recréé une nouvelle affaire. Il n'y a pas de char rapide. Il n'y a pas Vin Diesel. C'est pas rapide et dangereux.
Non, visiblement.
C'est un gros blockbuster. Quand même le fun. Il n'y a pas rien là-dedans que j'ai fait. Non, à part la fin. C'est juste qu'il me manquait. Peut-être que c'est parce que j'ai pas vu le premier, mais je me suis pas attaché à aucun des personnages. Il n'y a aucun moment où j'ai fait « Oh mon Dieu, il va arriver quelque chose à Owen. » J'ai pas... Fait hein?
T'es pas attaché au personnage du tout, en fait.
Quelques trucs qui semblaient builder up pour quelque chose, pour un éventuel troisième film qui a déjà été annoncé pour 2020.
Ah bon?
Ouais.
Comme c'est surprenant.
Ben oui, toi, moi aussi. Surtout qu'ils sont en train de défoncer le box-office et ils ont le parce meilleur que ça, lancement ben oui, ça marche bien, nord-américain là. En ce moment. Ouais.
Donc, est-ce qu'ils ont battu Avengers et compagnie?
Pas encore.
OK.
Mais c'est pas clair qu'ils vont le faire.
Bon. Eh bien, coudonc. Fait que comme quoi, tu donnes combien?
Ah oui, 7.5 sur 10.
Ah, c'est pas mauvais d'abord.
Non. Comme je dis, c'est le fun. Si t'as besoin de t'échapper de la chaleur oppressante d'un été humide, puis que tu veux juste... pas penser pendant une couple de 2 heures. C'est quand même long. C'est 2 heures pleines. Vas-y. Va le voir. Même si t'as pas vu le premier. J'ai pas vu le premier, j'ai tout compris.
OK.
T'sais, ultimement, le film a pas une complexité d'histoire qui nécessite de comprendre des tenants
et des
relations. Puis tout est expliqué en te tenant la main, là, comme de la relation un peu compliquée entre Owen et je m'appelle plus déjà de l'autre personnage. Claire. C'est déjà tout là. Tu sais déjà tout pourquoi il existe. Fait que, 7.5.
OK, bon.
C'est bon, dans les prochains jours, il annonce une grosse canicule, donc...
Si vous avez besoin d'acclimatiser, ben voilà.
Okay, oui.
Je recommande à tous d'investir dans le cinéma et l'air climatisé.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec mes chums.
Donc, les sorties pour cette semaine. Le retour du héros, dont je parlais.
Oui.
Mettant en vedette Jean Jardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlin, Christophe Montenez. Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste, il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser.
Mm-hmm.
La bande-annonce est à se pisser dessus de rire. Je le recommande fortement.
Bon.
Ciao Ciao, comédie dramatique française réalisée par Song Chuan. Ciao Ciao, une jeune femme chinoise ambitieuse rend visite à ses parents dans son village natal niché au cœur de la montagne. Elle n'a qu'un souhait, repartir au plus vite à Canton pour monter son affaire avec son amie Lily, ne voyant aucun avenir à la campagne. Mais ses parents vieillissants lui demandent de rester pour les aider. Elle est pendant ce temps l'objet de toutes les convoitises, particulièrement celle de l'orageux Li Wei, le fils désœuvré du fortuné fournisseur local d'alcool de contrebande. La première purge, version originale de The First Purge. Le film sera un préquel qui relatera les événements qui ont mené au tout premier film de la franchise, The Purge. Honnêtement, j'ai jamais rien vu de The Purge, mais la bande-annonce de la première purge m'a donné envie de les écouter. Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man and the Wasp, aventure fantastique américain réalisé par Peyton Reed. Au lendemain de Captain America Civil War, Scott Lang est confronté à ses choix qui influencent autant son rôle de super-héros que celui de père. Alors qu'il lutte pour équilibrer sa vie familiale avec ses responsabilités en tant qu'Ant-Man, il est interpellé par Hope Van Dyne et au docteur Hank Pym qui lui font part d'une nouvelle mission urgente. Scott doit alors enfiler une nouvelle fois son costume de super-héros et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe. Donc, sur ces belles paroles, ce serait la fin des sorties. Dans cette deuxième moitié d'épisode, nous allons vous parler de notre top 5 des acteurs-actrices canadiennes. Un French Marie-Gifle qui n'est pas piqué des verres. Mais avant tout cela, Jim nous parle de sculpture.
Oui, en tout cas de sculpteur, chose certaine. Une collaboration France-Belgique et États-Unis. Rodin, donc un drame biographique écrit et réalisé par Jacques Doyon, qui met en vedette dans le rôle du célèbre sculpteur Vincent Lindon, dont la réputation n'est plus à faire, parce qu'on l'a vu récemment dans le film L'Apparition et dans un paquet de films depuis des années et des années. Mais aussi Isia Higelin et Séverine Canel. On écoute la bande-annonce.
Avant de penser être un artiste, mon ambition, c'était d'abord d'être un bon ouvrier.
Si je pouvais être une modeste présence à vos côtés.
C'est toi qui sais depuis le temps que ça dure avec ta Claudel.
Je ne cherche pas à plaire. Moi, tout Tout ce que je veux, c'est être vrai. Hier, pendant le déjeuner, tu as encore dit papa. Je vais m'appeler Maître ou Monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris? La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu.
Hey, un homme plein d'empathie et de chaleur.
En tout cas, bon. Troisième film, hein, sur un artiste, je dirais, depuis les 12 derniers mois. Il y a eu l'espèce de truc peint à l'huile sur Vincent Van Gogh. Et il y a eu aussi le film le plus récent...
Gauguin,
oui, c'est ça, exactement. Et là, cette fois-ci, avec Rodin. C'est un film sur lui, Auguste Rodin, le célèbre sculpteur français. En plus de ses difficultés avec la critique de plusieurs de ses œuvres, l'artiste développe une relation importante avec son élève surdoué, Camille Claudel. Elle-même est une sculpteur, ou sculpteuse, ou sculptrice, je suis plus très certain de comment faut dire ça, très talentueuse, avec qui il partage beaucoup plus que l'art. Cette relation devient de plus en plus malsaine alors que Rodin, bourreau de travail, devient obsédé par son projet de sculpter Balzac, le célèbre écrivain. Bon, écoutez, ce film-là a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2017. Vincent Lindon joue un Rodin impeccable, très crédible, pour qui la réalisation passe par son travail. Dans la première demi-heure, c'est quand même intéressant parce qu'on apprend un peu plus c'est quoi sa technique, par exemple pour sculpter des modèles qui ne veulent pas être sculptés. Il a développé une capacité de mémorisation des traits du visage qui est quand même assez phénoménale. Donc tout ça est intéressant parce qu'on connaît, bon, on connaît le penseur de Rodin, on connaît quand même quelques œuvres. Et le côté, je dirais, historique du truc est intéressant jusqu'à un certain point relativement mince parce que il y a un problème dans ce film-là. Je vais en parler dans quelques instants. Juste pour vous dire que, bon, Vincent Lindon est très bon, mais la jeune Izia Higelin est très bonne aussi, magnifique, obsédante, même dérangeante dans son rôle de Camille Claudel qui, il y a eu un film d'ailleurs sur Camille Claudel qui est quelqu'un qui devient un peu folle, au bout du compte, elle devient un peu folle au cours de sa vie.
Elle n'a pas été internée à la fin de sa vie.
Oui, ben c'est ça, parce qu'elle s'imaginait que Rodin l'espionnait, puis en tout cas, bref, c'est une histoire de fou, mais c'est le cas de le dire. Mais donc voilà, donc le niveau du jeu, peu importe qui dans le film, c'est très 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 bien, mais le vrai problème de ce film-là, c'est qu'il est plate quelque chose de rare. Donc, franchement, là, il se passe rien dans ce film-là.
Je sais pas
si c'est vraiment son histoire est aussi pénible et inintéressante que ça, mais bon, on le voit tapoter ses œuvres, il les regarde en tournant autour, il met un peu de plâtre par ici, un peu de plâtre par là.
En même temps, c'est un sculpteur.
Oui, mais tu sais, hein, on aurait pu voilà, on aurait pu condenser du moins, hein, au moins d'une demi-heure là. Bon.
C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut être un Van Gogh puis ça être chopper l'oreille volontairement pour des raisons artistiques.
Ouais, mais tu sais, en tout cas, je sais pas.
Tant que ça.
Je sais pas. C'est que mon père est sculpteur. Puis il y a franchement plus de choses intéressantes à dire qu'il y en avait dans ce film-là. Donc.
Calme, oui.
C'est ça. Mais bon, que veux-tu? Ce film-là a quand même eu je dirais, un succès un peu mitigé. Il y a des très, très, très bonnes critiques de ce film-là, de très mauvaises. Donc, on parle entre 2 sur 5 et 4 sur 5, donc, dans ce que j'ai vu.
Wow, ouais.
Bon, si on voulait symboliser et nous faire vivre l'attente, la lenteur, la solitude, l'ennui, ce film est totalement réussi. Sinon, ben, c'est très, très beau. Je veux dire, les plans sont beaux, les acteurs sont bons, c'est très crédible, on le sent, Vincent Lindon, dans toute sa tristesse, si on veut, ou dans sa solitude, ou dans son... dans sa relation au travail. Mais c'est plate, t'allais pas voir ça.
Moi, Jim, j'ai vu le ballet Rodin-Claudel présenté par les grands ballets canadiens.
Oui, j'ai vu qu'il avait été fait, oui.
Oui, et c'était vraiment un très beau ballet, mais je crois que peut-être qu'il était plus facile de donner une autre dimension à la sculpture avec la danse parce qu'il y avait vraiment des danseurs qui sculptaient d'autres danseurs
ben
qui
oui.
restaient dans cette position-là.
Ça devait être très beau.
Donc pour ça, oui, c'était vraiment magnifique.
Parce surtout que les amoureux là, de Rodin, j'ai oublié, je pense que c'est les amoureux, là, non? En tout cas, l'espèce de couple qui est tout enlacé, mm-hmm. Ça, j'imagine, en danse, ça doit être assez exceptionnel.
C'était vraiment très beau. Effectivement, sinon, on semble-t-il que nous avons vu deux films français cette semaine qui n'étaient pas les meilleurs.
C'est un peu décevant.
Oui.
Mais heureusement, très inhabituel dans le registre. Donc,
oui, donc c'est
j'ai
ça.
L'espoir. Attends,
des films français plates? Non, c'est pas inhabituel.
C'est très rare,
même,
très, très rare.
Le standard.
Il y en a des excellents.
Ouais. Oui, il y en a trois.
Non, Il y en a beaucoup plus que 3. Mais en fait, Louis, si t'en as vu 5, ça se peut que tu dises qu'il y en a 3 qui sont bons, mais comme d'habitude, plus le répertoire est vaste, plus on va apprécier un plus grand nombre de...
Ouais.
S'il y a Gérard Depardieu dedans, seulement, c'est bon.
Donc, je lui donne un 6 sur 10 à ce film Rodin, parce que je peux pas rien lui enlever au niveau de la qualité de la production comme telle. Outre le fait que c'est un film extrêmement contemplatif, long, fastidieux, lourd.
Fait qu'un film à mettre le soir avant d'aller se coucher, dans le fond, si t'as de la misère à dormir, là, c'est...
D'excellentes chances. Vous risquez de vous faire réveiller par une des crises de Camille Claudel, mais sinon, ça va plutôt bien. Qui est vraiment très bonne quand elle se fâche. Franchement, l'actrice Izia, très, 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 très douée.
Ah, excellent. Bon, ben, on garde ça en note et on ne va pas voir ça.
Exactement.
Merci. Donc, en l'honneur de la fête du Canada qui va être demain, nous avons décidé de faire un top 5 de nos acteurs actrices canadiennes favorites. Favoris. Ouais,
préférés.
Je vais devenir préféré. Merci. Yes.
Et
il y en a quand même beaucoup de choix. On a une portée assez impressionnante de gens qui sont rendus de l'autre côté de la frontière pour faire carrière. Mais sans plus attendre, je vais demander à Mélina de nous envoyer sa liste.
Parfait. Donc, je vais commencer par... En cinquième position, j'ai mis, en fait, Rachel McAdams, dont la réputation n'est plus à faire, et donc elle est née à London, en Ontario. Elle a joué dans de nombreuses productions, dans une que j'ai particulièrement aimée, ça serait le Notebook, mais elle a fait tellement de films que c'est impossible de tous les nommer. Et j'aime beaucoup le côté terre-à-terre de cette actrice-là. Elle est arrivée, quand elle a commencé à avoir du succès, abandonnée, elle a pris un recul, elle a pris une pause, elle est retournée chez elle et elle a dit « Pour raconter les histoires des gens, il faut vivre sa vie. » Donc, elle voulait retourner chez elle, retourner dans son village, vivre sa vie d'une façon ennuyeuse et banale pour, voilà. Pour
elle aurait dû aller à l'époque de Rodin.
Et voilà. Bon. Donc, voilà mon numéro 5.
Je vais aller avec mon numéro 5 à ce moment-là. Mon numéro 5, c'est Michael Cera, qui est de Brampton, en Ontario, qu'on a connu, entre autres, avec Scott Pilgrim vs. The World. Il faisait une des voix dans Sausage Party et il jouait une version vraiment trash de lui-même dans This is the End. Jeune acteur, à chaque fois, il est magnifique à l'écran dans son espèce d'inconfort permanent d'exister. Sa tête frisée nous rappelle à quel point on va tous mourir seul. Et j'aime cet homme d'amour à chaque fois que je le vois à l'écran. Jim?
Moi, j'étais étonné quand j'ai fait mon top 5 parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans mon top 5, une grande majorité de femmes dans mon top 5. Ce qui me surprend parce que on dirait tu me demandes de nommer mon acteur, mon actrice préférée, les premières personnes qui vont venir, c'est les hommes. Probablement parce que je suis un homme. Mais en faisant vraiment le travail, j'ai réalisé qu'en fait, j'aimais plus de femmes actrices canadiennes que d'hommes. Alors voilà, mon numéro 5, c'est Magali Lépine-Blondeau, qui est surtout connue à la télévision, pour notamment son premier rôle dans la première saison de la série District 31. Série d'ailleurs surprenamment intéressante et bonne à regarder.
Dans Plan B aussi.
Oui, dans Plan B, effectivement, série Plan B, c'est quasiment un téléfilm en fait, Plan B, mais oui, exceptionnel, le réalisme dans son visage, dans ses traits, dans sa façon de s'exprimer, on y croit totalement. Donc Magali Lépine-Blondeau est mon numéro 5.
C'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est vrai que quelle actrice.
Ouais.
Mélina, ton top 4.
Mais mon top 4 en fait, c'est une actrice, elle a joué dans des films, mais je la connais principalement pour jouer dans une série. Donc il s'agit de Sandra Oh, qui vient de Ottawa, qui est connue pour jouer le rôle de Christina Yang dans Grey's Anatomy. Donc, actrice que j'aime vraiment beaucoup, qui amène vraiment un réalisme dans sa performance et qui n'a pas peur d'essayer des rôles qui sont très loin de sa personnalité. Je la trouve très douée et franchement excellente.
Bon, top 4 après ça, ce serait... C'est Ryan Gosling, ce charmant acteur aux yeux bleus éclatants, qui vient de London, Ontario, Je savais pas, moi, ces choses-là. On l'a connu, entre autres, dans The Place Beyond the Pines, La La Land, Blade Runner 2049 plus récemment. Il va jouer Neil Armstrong dans un biopic très prochainement. J'aime son regard si charmant, mais également son jeu d'acteur qui est vraiment toujours suacoche.
J'étais sûr que t'allais prendre Ryan Gosling, je sais pas pourquoi.
Parce que j'arrête pas de dire que c'est cet homme-là magnifique.
Ouais, là, c'est vrai. Mais il y en a un autre que je sais que tu vas prendre, mais je le dirai pas.
Il y en a deux autres que t'aurais déjà dû savoir. Mais c'est beau, ça serait donc mon top 4, c'est Ryan Gosling parce qu'il est si charmant.
Bon. Moi, de mon côté, je sais pas si le charisme l'emporte, mais ma quatrième position des meilleurs acteurs, actrices canadiens sont, Patrice Robitaille, qu'on a vu justement dans la semaine dernière, on en avait parlé dans le film
Quand
l'amour se creuse un trou, ouais, c'est ça. Mais qu'on a vu dans un paquet de films, là, je veux dire, à travers les années. Oui. Et je n'ai jamais été déçu de sa performance. Il n'est pas théâtral dans son jeu, il est crédible, il est vrai, et il est très très bon pour faire des rôles, peut-être un peu sous-utilisé là-dedans, mais bon pour faire des rôles de méchant.
Fait que Patrice Robitaille, top 4 de Jim.
Voilà.
Mélina, ton top 3.
Mon top 3, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà été nommé autour de la table. Et oui, j'ai mis Ryan Gosling.
Un autre acteur qui a joué dans The Notebook, d'ailleurs.
Exactement, oui, les deux qui ont joué ensemble, mais qui, étonnamment, viennent de la même ville en Ontario, la ville de London. Donc, ville peut-être qui a des bonnes écoles de théâtre, qui sait. Mm-hmm. Donc, voilà.
Excellent. J'ai pensé à changer mon top 3 juste à l'instant, suite aux mentions de Jim, de Patrice Robitaille. Je suis en train de garder Rémi Girard, mais je vais garder avec mon top 3 que j'avais déjà décidé. Mon top 3, c'est Ryan Reynolds!
C'était le deuxième que je pensais. Il y en reste un, effectivement.
Il y en reste un, effectivement, puis j'ai hâte que tu le spot.
Ça va être ton premier, je suis sûr. C'est sûr que oui.
Fuck, il faut changer. Ryan Reynolds, qui est un homme de Vancouver qu'on a connu, surtout pour des comédies romantiques, justement, avant de faire le rôle très désastreux de La Lanterne Verte, où est-ce que ça a été un flop tant commercial que moral. Il s'est repris, entre autres, dans Selfless et surtout dans, plus récemment, Deadpool. Également dans L'homme du corps du meurtrier, qui était vraiment très bon avec... Samuel L. Jackson, qui était absolument délicieux là-dedans. Donc, également un autre bel homme qui sait faire de bonnes blagues.
Oui.
Je sais pas, les Canadiens, c'est tout le temps ça.
Ah ben écoute, c'est normal. Hein.
Oh, oui. Jim, ton top 3.
Alors, mon numéro 3, j'ai même pas besoin de la nommer, c'est Anne Dorval. Donc, qu'on a vu dans de multiples films, récemment dans un film français, mais plus souvent qu'autrement dans des films plus, disons, québécois. Notamment le film de Xavier Dolan, Mommy. Prestation extraordinaire dans Mommy, on la voit aussi à la télévision.
C'est juste dommage que ce soit un film de merde.
Au niveau du jeu, c'est pas un film de merde, en tout cas, sur chose certaine. Et vraiment, vraiment, elle est d'une crédibilité, cette actrice-là, encore là, et je donne énormément de points pour ça. Personnellement, beaucoup plus que le charisme ou ces choses-là. C'est si j'ai le moindrement l'impression que c'est théâtral, je débarque. Donc, j'arrive pas.
Jim, tu as proposé l'idée de faire un truc pour la fête du Canada en parlant d'acteurs, actrices canadiens, canadiennes, mais il s'est préparé pour le 24 juin, puis il nous sort son top 5.
Non, mais ça, ben, c'est des Canadiens quand même, les Québécois sont des Canadiens. Donc, à cause de ça, voilà. Mais non, mais effectivement... Mon top 1 ne sera pas québécois.
On sait déjà c'est qui ton top 1.
Moi je sais pas. Mélina, ton top 2.
Tu as regardé ma feuille.
Non, j'ai pas regardé ta feuille du tout, mais je crois que peut-être ce sera le même que le mien. Donc, en deuxième position, j'ai mis moi aussi Anne Dorval parce que je pense que au niveau du Québec, c'est la meilleure représentante du Québec. Mm-hmm. En tant qu'actrice, j'aime beaucoup son jeu qui est toujours. Qui est vraiment, comme on dit, juste dessus.
Non, oui, parfaitement dans le personnage.
Parfaitement dans le personnage.
Moi, mon top 2, c'est aussi un Vancouverois. Apparemment, il y a quelque chose à Vancouver pour les gens drôles et charmants. Mais cette fois-ci, il est peut-être moins traditionnellement charmant. Il est peut-être plus rondelet, frisé. Pas exactement dans le Ryan Gosling School of Beauty, mettons.
Seth Rogen.
Oh boy.
Non, lui, je l'aurais pas prédit, par contre.
Tu l'aurais pas prédit? Pourtant, la vedette de Superbad, réalisée de Pineapple Express, qui a fait la voix de Kung Fu Panda, qui a joué et réalisé l'extraordinaire l'entrevue qui se passe en Corée du Nord.
Ah, The Interview!
C'est lui, puis c'était avec son un de ses très bons chums, James Franco, qui a également réalisé, participé dans This is the End, que j'ai mentionné plus tôt avec Michael Cera. Bref, Seth Rogen est un homme que j'admire énormément. On a la même shape, fait que je peux pas empêcher de me reconnaître en lui. Également, à chaque fois qu'il est en entrevue, il est drôle, il a pu savoir quoi en faire. Il a participé à un paquet de projets que j'ai trouvé hallucinant. Sausage Party aussi, qui était très drôle. Donc, Seth Rogen, je l'aime d'amour. Jim, ton top 2.
Alors moi, en deuxième position, en fait, j'avais prévu mettre Ryan Gosling dans mon top 5 jusqu'à ce qu'un espèce de retour en arrière mental arrive pendant que j'écrivais mon top 5 et j'ai réalisé que je ne pouvais pas omettre cette actrice parce que justement, dans le film Quand l'amour se creuse un trou, j'ai eu une révélation phénoménale. Donc je mets France Castel en position numéro 2, ce qui est quand même beaucoup. Je ne l'ai pas vu dans aucun autre film de mémoire, mais c'était tellement bon, sa prestation. Son jeu était tellement extraordinaire que j'arrivais pas à la déplacer plus bas que 2 dans mon affaire. Donc, France Castel, actrice, chanteuse et compagnie, je la mets comme deuxième meilleure actrice canadienne selon mes standards et mes intérêts.
Super, j'avais pas pensé à la mettre. Il y en a tellement, en fait. Il y a tellement d'acteurs au Québec et au Canada, en fait.
Lina, roulement de tambour.
Non, première position, j'ai mis Jim.
Oh yeah!
Woohoo! Jim Carrey, bien sûr. Parce que c'est une personne vraiment exceptionnelle et un acteur aussi incroyable. Et après avoir vu le documentaire Jim et Andy et avoir un peu plus compris la façon dont il va rentrer dans le personnage pour faire ses rôles, ça rend ça encore plus incroyable pour moi. Donc voilà, Jim en
Carrey
numéro 1.
En première position. Mais moi, en première position, c'est Rémi Girard.
T'as changé, t'as pas le droit. Je suis sûr que t'as changé dans la minute.
Non,
là, avoue
non,
que c'était Kenny Reeves.
Non. Je n'avouerai rien
ouais,
en
ouais, ouais, ouais. Ok, c'est ça. On en reparle après. On en mangeant une crème glacée.
Rémi Girard, qu'on a connu, entre autres, dans Le déclin de l'Empire américain, où il faisait une de mes scènes favorites du cinéma québécois à ce jour, qui est la fameuse scène de la masseuse. On n'en parlera pas en onde. C'était assez explicite, merci. On a vu également dans Les Boys, qui était une collaboration avec Éric Lapointe. Encore à ce jour, j'en reviens pas qu'on ait fait ça. Les Invasions barbares. Incendie en 2010, qui était absolument excellent. Et que l'on attend très prochainement dans
La chute de l'Empire
américain, qui a l'air absolument extraordinaire. Mmh,
ouais.
Donc, Rémi Girard pour son chambre toujours un peu... peinard, mais en même temps, il fait tellement bien le méchant dans les séries télé.
Ben moi, en fait, pas de surprise. Comme Elina, Jim Carrey était mon numéro 1
oui.
Des meilleurs acteurs canadiens parce que, bon, l'homme, tant l'acteur que l'humain, que l'homme, que le caricaturiste, l'artiste, que tous ses personnages, et c'est une personne entière, mais tellement exubérante. C'est une personne qui... Tu peux pas arrêter de le regarder quand tu le vois.
Je veux juste qu'on soit clair.
Fascinant, ce gars-là.
Entre autres, connu pour avoir fait des gags à plusieurs reprises.
Oui. Et très drôle.
Au travers de son cul dans Ace Ventura, là, comme...
Oui, mais il est capable de jouer dans cette zone-là, mais il a été beaucoup plus loin que ça. Alors, justement, quand lui, c'est un fan fini de Andy...
Andy Kaufman.
Puis quand il a interprété son rôle
dans
son espèce de film biographique, il a été Andy Kaufman pendant des mois. Et c'est hors du tournage aussi. C'est phénoménal.
C'est vraiment impressionnant. Allez voir si vous ne l'avez pas vu. Je recommande fortement le documentaire sur Jim Carrey, justement, là, sur Netflix.
En tout cas. Fait que Jim Carrey et mention spéciale, comme je le disais, à donc Rémi Girard et Michel Côté, qui sont très, très bons. Un peu moins actuels, bien qu'on les voit de temps en temps, que, mettons, d'autres humoristes devenus acteurs, comme Patrick Huard et compagnie. Mais... dans tous les cas, il n'entrait pas dans mon top 5. Il aurait peut-être rentré dans mon top 6 ou 7.
J'avais une vraie mention spéciale.
Vas-y,
J'avais une vraie mention spéciale pour Eugène Lévy. Connaissez-vous Eugène Lévy, cet homme d'Hamilton, Ontario? C'est un peu bedonnant, toujours avec ses lunettes très grosses et très rondes. C'est le seul acteur qui a participé au 8 American Pie, folie de graduation,
oh boy.
Sans arrêt de toute la série, toujours dans le rôle du père de l'autre. Comme étant, il a aussi fait un paquet de séries télé dans le reste du Canada, mais pour moi, dans mon cœur, il va toujours rester ce papa un peu tout croche qui est toujours présent. Mais dis-nous, est-ce que tu avais des mentions spéciales?
Non, mais en fait, j'avais une question, surtout à Jim, mais peut-être à toi, Louis. Mais je me demandais pourquoi tu n'avais pas mis ce fameux acteur montréalais qui a joué dans ta série fétiche Star Trek, William Shatner.
Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce qu'il est misogyne, raciste, homophobe et qui...
Pas fin envers les femmes.
Malgré ce qu'on pourra dire, n'est pas si bon acteur que ça. Donc, à mon goût personnel, j'aime bien son personnage de Kirk, mais c'est le jeu est très théâtral, c'est quelqu'un qui date de la vieille école, il a commencé dans les années 50, donc évidemment, on est ailleurs, là. Donc, et il n'entrait pas dans ma catégorie d'acteur crédible, voilà. Et
également, j'aime pas tant Star Trek, je suis un gars de Star Wars.
Mm. Bon, mais moi, je suis aux deux, moi. Hein? Vive la diversité.
Tu vois, Jim, il est des deux bords de la clôture.
T'es un B-star, comme
c'est
on
ça.
Dit.
En fait, B-Star Wars, Star Trek, c'est vrai.
B-star, okay. Voilà.
B-star. C'était le signal sonore. On a un French Marie Gifle de films québécois qu'on a vu récemment. On a fait des critiques communes, fait qu'on les a tous vus. On a Hochelaguer, Terre des âmes, Origami, ainsi que La chute de Sparte. Je vais commencer. Donc, qu'est-ce que je French, qu'est-ce que je Marie, qu'est-ce que je gifle? Sans surprise, je gifle à toute volée La chute de Sparte, parce que c'était pas écoutable, cette histoire-là. C'était tellement plein de lui-même que j'étais juste pas capable de comprendre ce qui se passait. S'il faut encore que je revoie des citations poches de Gaston Miron quelque part, je pète un plomb. Bref, toute volée, à la toute volée, je gifle La chute de Sparte. Je French Origami, parce que c'était peut-être pas extraordinaire, mais ça essayait fort. Il y avait des trucs vraiment intéressants. J'aime beaucoup l'art japonais, fait que c'était cool. C'était... Il y avait de quoi, là? C'était mal ficelé à la fin, puis l'histoire faisait aucun Christi de sens. Et ces gens-là ne comprennent pas le voyage temporel, mais au moins, ils essayaient. Je Marie Hochelaguer, Terre des âmes. Parce que Samian, des fois, il fait des trucs cool. Ça, c'en était pas un, mais des fois, il essaye fort. Il y avait des trucs historiques vraiment intéressants. Ça aurait vraiment fonctionné comme une télésérie, je crois. Un téléfilm, à la limite, ou comme une série de shorts. Mais dans la forme qu'on a, c'était quand même bon. C'était pas... Les références au football au travers ça étaient un peu forcées. On voyait que c'était pour attirer les Huns. Mais j'ai pas haï ça assez pour dire que je Marie Hochelaguer, Terre des âmes. Des trois, c'est le seul que je reverrais. Anyway, Mélina.
Moi, je Marie également Hochelaguer, Terre des âmes, mais contrairement à Louis, je vais frencher La chute de Sparte et je vais gifler Origami. Et la raison est simple, ça m'a pris un bon 30 secondes pour me rappeler c'était quoi Origami, donc ça ne m'a pas vraiment marqué. Voilà.
Oui, mais sa petite fille, puis l'aéroport. Jim!
Ah, écoutez, ces films ont été sélectionnés parce que, on va se le dire, les trois m'ont fait vivre de la frustration, soit pendant, soit après,
oui.
Soit encore. Et parfois plus qu'une de ces réponses. Alors, écoutez, Hochelaguer m'a énervé parce que j'aimais pas du tout les métaphores. Je trouvais que c'était mal organisé. C'était et je trouvais surtout que c'était absolument inutile les scènes qui n'étaient pas dans le passé. Et donc, le film était très mal ficelé. Mais les scènes du passé étaient très, très bonnes. Alors, par conséquent, je vais marier Hochelaguer, Terre des âmes.
Oui. Comme nous tous.
Comme vous tous. Simplement parce que de marier un des deux autres, ce serait un manque de respect. Même si Hochelaguer est un demi-film, à mon avis, on aurait pu enlever toutes les scènes contemporaines de ce film-là et ça aurait été franchement meilleur. Origami va se faire frencher.
Oh, oui!
Parce que ce film-là a poursuivi sa quête, a poursuivi son chemin et c'est totalement... inattendu de ma part, j'aurais pensé que ça aurait été le premier gif que j'aurais donné, mais non, parce que ce film-là, au bout du compte, m'a fait vivre beaucoup plus d'émotions que les deux autres. La chute de Sparte avait d'excellents moments et de très mauvais moments, Et je n'ai rien contre l'histoire en tant que telle, j'ai quelque chose contre l'adaptation. Je pense que ce film-là n'aurait pas dû être adapté de cette manière-là. On aurait dû faire une version contemporaine ou faire une version qui se passe dans les années 90, mais pas mélanger les deux, où on a des dialogues qui n'ont absolument aucun sens en 2018 dans une école. Donc, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment du botchage. Et
mais ton argument, je trouve que ton argument se tient. Même si je suis pas d'accord, merci. Je trouve que ça se tient. Donc, voilà.
Alors, voilà. Mais bon, Origami aurait pu être vraiment mieux aussi.
Ouais, merci beaucoup à vous deux pour cet extraordinaire French Marie Gifle. On a donc fini un nouvel épisode de Cinébrunch. On vous souhaite à tous et à toutes une extraordinaire semaine, un extraordinaire popcorn et un délicieux temps du Noël des campeurs.
Oui, parce que hein, c'est le Noël des campeurs. Le mois de juillet arrive à grands pas. C'est le sortez votre musique de Noël, montez votre sapin sur la pelouse ou près de la piscine.
Merci et bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.